Voilà, oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
No wounded, sir.
Che fai, gradisci?
Ma sta tocca, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dici? Come fa che dici?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, femmes, vieux, opprimés qui subissaient le déclin ou le dédain, et les autres aussi, bonjour et bienvenue. Renverser les rapports de force, vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, avec nous pour parler des films à l'affiche, j'ai le plaisir d'être en joyeuse compagnie qui, elle, n'est pas sur le déclin, enfin, je ne pense non. pas tout à fait. Clotilde, salut Clotilde.
Bonjour.
Alexis, bonjour Alexis.
Salut.
Et Olivier, of course, bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et puis, celui qui est toujours vigoureux à la réalisation. Salut Sylvain.
Salut.
Vous êtes tous les trois ici pour nous parler de quelques films, notamment Quand vient l'automne, Riverboom, Tatami. On verra si... Vous êtes dans le move pour parler d'autres films. Et puis Clotilde vient nous parler aussi de deux événements qui vont avoir lieu au navire. Deux cycles, l'un cycle de SF et l'autre en partenariat avec le festival Images et Paroles d'Afrique.
Tout à fait.
Voilà pour le programme. Et ben on va commencer par un rappel. C'est la fin de la semaine bleue. Je dirais l'automne de la semaine bleue, cette semaine qui met en lumière ceux qu'on appelle les aînés ou les seniors, c'est plus dynamique, pour pas dire les vieux. Alors vous ne vous êtes pas trompé, vous n'êtes pas dans l'onde curieuse, mais bien dans Cinémascope, mais il se trouve que les professionnels du cinéma ont aussi le sens du timing.
Les premières années avec ma fille ont été merveilleuses. On était en communion totale. C'est après que ça s'est dégradé.
Ce serait bien si tu me faisais une donation de ton vivant pour éviter de payer trop d'impôts quand tu seras morte.
Je t'ai déjà laissé mon appartement de Paris.
Mais alors ?
C'est horrible à dire, mais avec nos gosses, on a tout raté.
Ah. À la fin des bêtises.
Philippe !
Qu'est-ce qui se passe, là ?
Ma fille nous a appelé en urgence, elle se sentait pas bien. Ça ressemble à quelque chose de toxique.
Les champignons.
Rentre avec Lucas.
Mais c'est vacances avec moi.
Après ce qui s'est passé, je peux plus te faire confiance.
C'était un accident.
Tu es dangereux. Je ne vais pas te laisser mon fils.
Ce qui est horrible, c'est que Valérie croit que j'ai vraiment voulu la tuer.
De toute façon, avec ta fille, c'est toujours de ta faute.
Vous n'avez pas à culpabiliser pour cet incident. C'était pas prémédité. N'est-ce pas ?
Ah ah, suspense. Vous les aurez reconnus, des femmes, bien sûr, puisqu'on est dans le cinéma d'Ozon. Hélène Vincent, Josiane Balasco, Ludivine Sagné, pour Quand vient l'automne de François Ozon. Et Alexis, tu es allé le voir.
Oui, on l'a vu en avant-première au cinéma des Vences. Et je vais vous dire, ça y est, c'est le mois d'octobre. Donc la saison de la cueillette, la saison du cinéma qui nous dévoile toutes ses couleurs. Donc c'est Quand vient l'automne, c'est un thriller psychologique donc de François Ozon qui explore plusieurs thèmes comme la culpabilité, la famille et le vieillissement. Le film se concentre donc sur Michel, interprété par Hélène Vincent, une grand-mère apparemment douce et bienveillante qui vit dans un village en Bourgogne. L'intrigue prend un tournant sombre lorsque sa fille est gravement intoxiquée après un repas aux champignons. Ce simple accident déclenche donc une série de doutes et de révélations. Alors, ce que je peux dire sur le film, en tout cas, c'est point fort. Ce film est une histoire simple de la vie, ce qui permet facilement de s'identifier aux protagonistes et à leurs histoires. Donc, par exemple, une grand-mère qui veut passer son temps avec son petit-fils, un conflit mère-fille non résolu qui dure depuis des années, une amitié très forte entre deux femmes âgées qui partagent un passé commun, une maladie qui frappe un coup de marteau, et l'amour d'une mère pour un fils qu'elle n'aura jamais. Voilà, donc c'est des histoires plutôt communes qui résonnent dans la tête tout au long du film au spectateur, à mon sens, ce qui fait l'une de ses forces. Son autre point fort, c'est que François Ozon utilise habilement les codes du thriller aujourd'hui, en jouant sur l'ambiguïté des intentions de Michel, et en maintenant un climat plutôt de tension croissante tout au long du film. Et son autre force aussi, c'est vraiment le duo de Hélène Vincent, en fait, des deux grands-mères, et Josiane Balasko, qui nous livre un petit peu le vieillissement. En fait, on n'a pas l'habitude de voir des actrices à l'heure d'aujourd'hui filmées à cet âge-là, entre 70 et 80 ans. Et c'est un petit peu ce qu'offre François Ozon à ses spectateurs, et même aux actrices, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est difficile en France de trouver des rôles intéressants pour les actrices de cet âge. Donc c'est plutôt intéressant. Donc rien que pour ça, allez, venez vous déplacer. Mmh. Et puis moi, je vais surtout dire une petite conclusion. Donc la mise en scène est purée d'Ozon, mais en valeur la ruralité française d'aujourd'hui, et le passage du temps qui renforce la sensation d'un automne symbolique. Voilà. Mmh. Et... Peut-être petit bémol, avant de vous quitter sur le film, c'est qu'on pourra regretter peut-être des simplicités scénaristiques, voilà, et une mise en scène qui est parfois avec des raccourcis, qui peut faire avancer l'histoire, mais qui peuvent tiquer un petit peu, voilà, ça va être surtout ça, mais le film, à mon sens, est de très bonne qualité, les spectateurs des vents ont beaucoup apprécié le film.
Et est-ce qu'il est... vraiment subversif comme François Ozon a souvent l'art de pratiquer. Est-ce qu'il est subversif ce film ou pas trop? Enfin, j'ai lu, moi je ne l'ai pas vu, mais j'ai eu des choses assez différentes à ce sujet. Pour toi?
Ah, pour moi il l'est ouais. Complètement. Moi je veux pas trop en dire parce que j'avoue que j'aime bien laisser la surprise.
Bien sûr.
Mais alors à mon sens déjà, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film de François Ozon comme ça. Voilà.
Ah.
Voilà. Après je sais que Grâce à Dieu a été un de mes films phares quand je l'ai vu. Après j'ai trouvé toujours ça un petit peu en dessous. Je pense à Mon Crime, je pense à Été 85. Voilà, on avance un peu plus. Je trouve voilà. En plus, c'est une histoire vraie pour lui. Enfin, c'est une histoire vraie. C'est inspiré d'une histoire vraie où il avait où justement sa grand-mère avait fait une soupe de champignons, enfin un repas de champignons, et en fait, la grand-mère avait intoxiqué toute la famille. Toute la famille s'était retrouvée à l'hôpital. Voilà. Donc, on sent que c'est un petit peu du vécu. Voilà. Ah. Et qu'il avait raconté un petit peu ça. Voilà.
Super. Merci, Alexis. Pas d'autres commentaires autour de cette table?
Non, pas vu.
Vous attendez de manger quelques champignons? Non, pas encore.
Effectivement, le duo Hélène Vincent, Josiane Balasko, ouais. Avec impatience, ouais.
Ouais. C'est à voir au Navire, la semaine prochaine aussi à Privas, et à partir du 16 octobre, au Vence et à Vals-les-Bains. Alors, un prêt, un film sur l'automne de l'âge, un film de jeunes, de potes, qui partent en road trip. Alors, ça aurait pu être un film de Judd Apatow, sauf que le road trip ne se passe pas tout à fait aux États-Unis, voire même, c'est dans son exact contraire.
Non, mais qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a fait ce geste?
Il y a des snipers, ouais.
Non, mais il a dit ça sérieusement?
Bon, on arrive au checkpoint. Cache la caméra.
Nous sommes en 2002, au milieu de l'Afghanistan, en pleine zone talibane, peu après l'intervention militaire américaine. Deux jeunes reporters intrépides et moi embarquons pour un road trip insensé autour du pays pour vérifier les promesses de la Pax Americana.
Would you tell us exactly against whom you are fighting?
They're the enemy. We're their destroyer. That's all that matters.
Il y a deux, trois segments qui sont connus pour être dangereux.
On se connaît bien, ce sont nos voisins. Le matin, on se salue. La journée, c'est la guerre, et on se tire dessus.
S'ils brûlent ta voiture, c'est taliban, puis si c'est ils la volent, c'est bandit.
Faut pas s'approcher à moins de 25 mètres des mineurs, parce que ça peut sauter.
Even if I put a jacket on?
Attention, tu marches quand même, reste sur la... T'as pas besoin de t'approcher!
Et voilà, oui. T'as pas besoin de t'approcher. Une comédie, un docu-fiction, un film de potes, et tout ça en Afghanistan.
Oui, un documentaire. Hein.
Ouais.
Un documentaire.
Et avec l'accent suisse.
On n'a rien gâché.
Lausanne. Olivier.
Non, c'est sérieusement un documentaire. C'est l'histoire de Serge Michel.
Riverboom, pardon, j'ai pas dit le titre.
Oui, Riverboom. Je dirais pourquoi Riverboom.
De Claude Bechtold.
Oui. Claude Bechtold qui est attrapé, lui il est graphiste de son état, et il est attrapé par Serge Michel qui lui est journaliste, grand reporter, il a déjà fait du grand reportage en Iran, il parle farsi, donc ça le prédispose, et il chope donc Claude pour être son chauffeur pour partir en voiture comme ça en Afghanistan, à Kaboul, tout simplement. L'Afghanistan, c'est année zéro. Une année zéro supplémentaire pour l'Afghanistan, c'est régulièrement l'année zéro en Afghanistan. Avec la venue des Anglais, la venue des Russes, la venue... Bon, là, ce sont les Américains qui ont débarqué, donc après les attentats du 11 septembre, évidemment. Ils veulent choper le Mollah Omar et puis Ben Laden. Donc, ils décident d'investir tout ça. Et donc, nos deux gaillards s'en vont en voiture et arrivent. Et puis, en route, ils attrapent un photographe italien, d'origine italienne, qui vit aux États-Unis, Los Angeles. C'est, je vais y arriver, Paolo Woods, photographe de beaucoup de talent. Et donc, vous avez trois jeunes, ils sont très jeunes, ils ont à peine plus de 30 ans. Trois jeunes avec des tempéraments, des caractères extrêmement différents. Serge Michel, le Suisse, sérieux, protestant, de culture. Paolo Woods... ascendance italienne, très très disert, très absolument inconscient de toute espèce de danger. L'essentiel, c'est de faire de belles photos artistiques, posées, super bien éclairées, avec des flashs spéciaux, etc.
C'est lui qui s'approche des mines.
C'est lui, évidemment, qui s'approche des mines, qui trouve que comme il y a plein de lapins et que ça n'a pas sauté, ma foi, il n'y a pas de problème. Il ne pèse pas exactement le même poids qu'un lapin, mais bon, c'est pas grave. Et puis, Claude, le réalisateur, Bechtold, qui veut quand même faire quelque chose, à l'arrivée à Kaboul, il s'achète une caméra vidéo, et puis il a un petit appareil automatique comme ça que tout le monde prend pour un rasoir électrique, et c'est armé de ces deux appareils qui couvrent tout le parcours des trois compères. Et les trois compères décident de faire un tour d'Afghanistan, c'est très très impressionnant, vraiment un tour de l'Afghanistan, traversant toute espèce de zone. Des zones donc aux mains de chefs militaires, aux mains de bandits, aux mains de talibans. Les Américains ont à peu près rien investi encore à ce moment-là. Et le gouvernement officiel de Kaboul, que les Américains viennent aider en fait, est pratiquement démuni. Donc il sert pratiquement à rien. Et nos trois gaillards, ils partent comme ça. Et alors, ils traversent donc, comme on l'entend dans la bande-annonce, quelques zones extrêmement dangereuses. Mais c'est pas de la rigolade. C'est effectivement, ils échappent, à mon sens, plusieurs fois au pire. Et puis, à un moment donné, ayant traversé une zone vraiment craignose, ils arrivent à un endroit où une rivière est en crue, ça les arrête. Et en fait, ils passent la nuit d'un côté de la rivière en crue. Et le lendemain matin, des habitants sur l'autre rive les aident à traverser. Et Claude, qui depuis son enfance faisait des cauchemars liés à la perte de ses parents dans un accident de voiture, ayant été comme sauvé par ses habitants afghans, il vit comme une nouvelle naissance et se débarrasse définitivement de ses cauchemars, ce qui est... C'était un peu le froussard quand même de la bande. Il reste le plus prudent, mais il est complètement libéré et ils finissent donc leur tour tous les trois. Lui...
Ne nous en dis pas trop.
Non. Lui filme et photographie. Et donc, le documentaire, puisque c'en est un, est une sorte de palimpseste. La base, le premier écrit, la première couche... C'est le film vidéo de Claude Bechtold qui va remonter pour donner Riverboom. Alors Riverboom, c'est la rivière dont ils ont été sauvés par les habitants. Il superpose à ce film les photos de son petit astigmatique couleur. Alors au début, elles sont grotesques. C'est les two LED pictures, c'est-à-dire parce que souvent quand il déclenche, ce qu'il voulait prendre est déjà sorti du cadre. Oui. Donc ça fait. Et puis progressivement, ces photos deviennent très bonnes, couleurs, les couleurs de l'Afghanistan, les tissus, les fruits, les légumes, ça. Ouais. Et puis encore nouvelle couche, les photos de Paolo Woods, noir et blanc, cadrage serré, magnifique. Et tout ça forme une espèce d'objet cinématographique passionnant, dont les acteurs sont bien évidemment ces trois garçons. Et c'est à la fois un témoignage historique, journalistique, et un témoignage sur une jeunesse un peu folle, mais incroyablement créatrice, quoi.
N'en dis pas plus, je pense que ça nous a tous donné envie d'aller voir.
Je voulais juste ajouter le fait que Serge Michel, après avoir été au Figaro, c'est pour lui qui faisait ses papiers, puis au Monde, à la rédaction, a créé un nouveau média en Suisse, ça s'appelle ID News, et c'est vraiment, allez-y sur Internet, ID News, c'est vraiment du très très bon journalisme.
Alexis.
Si tu peux me permettre, juste le film, il est distribué par Zing Distribution, et qui est un distributeur qui n'est pas très très vieux non plus dans le circuit, et qui a notamment distribué Le Fil, donc c'est quand même une société de distribution qui distribue des films art et essai, mais qui a tendance à avoir un accès au public quand même qui est assez large. Et bon, pour la petite anecdote, il a aussi distribué Les Petites Victoires, qui est un film avec Michel Blanc, qui est décédé aujourd'hui. Je préférais le dire aussi, que c'était important. Voilà.
C'est vrai. Merci beaucoup, Alexis. Courez-y, parce qu'il n'est programmé que jusqu'à mardi à Aubenas, Rosières et Privas. Donc allez voir ce film et peut-être qu'il sera reprogrammé ou programmé encore.
C'est vraiment très original.
Oui, c'est ça. Moi, j'ajouterais que si on a envie de se faire une toile, c'est celui-là qu'il faut choisir parce que c'est une petite pépite.
Oui. Ouais. Tu es allé voir, Clotilde ?
Non, pas encore, mais effectivement, très bons échos.
Ouais. Donc River Boom, allez voir River Boom de Claude Bechtold. Après l'Afghanistan inattendu, donc vu par des Suisses, la République iranienne, elle aussi montrée différemment grâce à l'un des plus puissants moyens de voir le monde autrement, le cinéma.
چطوری همه چی به هم ریخت؟
My name is Leila Hosseini. I am here to win the gold for my family, for my team, and for my country.
Tatami de Zahr Amir Ebrahim, qui est réalisatrice et comédienne iranienne, et de Guy Nativ, qui est israélien, réalisateur israélien. On l'avait connu pour Skin, qui était un film sur un jeune néo-nazi en 2018. Tatami, donc, un thriller politique et sportif en noir et blanc. Est-ce que ça vous a convaincu, Olivier et Alexis? Olivier.
Complètement. Après la pépite, là, je dirais presque un film classique déjà. Il était passé il y a quelques semaines, il est de retour. Je pense qu'il a été réclamé à corps et à cri.
Tout à fait.
Parce que c'est vraiment, oui, je pense déjà un classique, Tatami, donc comme tu disais, de Zahr Amir Ebrahimi et Guy Nativ, avec déjà, alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une compétition championnat du monde de judo en Géorgie, à Tbilissi, et il doit y avoir un engagement entre une Iranienne et une Israélienne, entre autres, et il est hors de question pour le régime iranien que l'Iranienne perde. Mmh. Il préfère qu'elle déclare forfait pour blessure et qu'elle se retire de la compétition avant de subir un éventuel camouflet. Mmh. Camouflet qu'elle n'a aucune intention de se prendre de toute manière, puisqu'elle est très très forte et une des favorites. Elle est son coach, donc qui est joué par la réalisatrice, hein, Zahr Amir Ebrahimi. Son coach, il lui est arrivé déjà à peu près la même aventure. Elle a déclaré forfait et elle subit encore plus fortement et plus directement la pression du régime à distance, hein, par téléphone interposé et agent interposé. Et elle encourage son athlète à abandonner aussi.
Ouais, ne nous en dis pas trop,
non.
Dévoile pas
non,
trop.
Non, mais ça, c'est le début.
Le point de départ.
C'est absolument le point de départ. On sait très rapidement que l'enjeu est là. L'athlète, Leila, est jouée par Adrienne Mandy. C'est une Américaine. J'en revenais pas quand j'ai appris qu'elle était Américaine. On croirait vraiment une judoka iranienne. Pour des questions de physique, d'attitude, de façon de parler. Et puis, sur le tatami, On a l'impression qu'elle a toujours pratiqué le judo. C'est quelque chose d'incroyable. En fait, elle n'avait jamais fait de judo de sa vie. Elle a été formée par un prof à Los Angeles pendant des mois et des mois. Et ça, ajouté au fait que le judo lui-même, même pas tellement le tatami, le stade, etc., mais le judo lui-même, les prises, sont filmées d'une telle manière que j'avais jamais vu. J'avais jamais vu le judo filmé comme ça. Autant, vous savez, dans D'Artagnan, on a l'impression que les mecs se font face face avec des épées. Voilà. Et puis que c'est que la caméra qui bouge. Là, non, on est vraiment comme si on était pratiquement un combattant. Et même dans les immobilisations, on est partie prenante de l'enjeu physique. Voilà. Donc, le fond, c'est ça. Et comme souvent les chefs-d'œuvre ou les œuvres majeures, la qualité du film vient de la correspondance du fond et de la forme. C'est-à-dire qu'on a un format plus proche du carré. Donc le regard ne se disperse pas latéralement. On est vraiment pris. Et d'ailleurs, on est pris dans le cadre plus étroit de l'image sur l'écran, comme les protagonistes sont pris par le régime, par les pressions diverses et variées. Et puis alors on a un noir et blanc somptueux qui ferait presque argentique, qui ferait presque pelliculaire, avec une variété de tons. Il faut savoir que les combattantes sont souvent, pour qu'on les distingue facilement, en kimono bleu et en kimono blanc. Donc là ça fait noir et blanc. Donc on a des images en permanence très fortement contrastées, comme effectivement le judo est un sport de combat, donc un sport de contraste, et comme effectivement l'athlète, sa coach, son mari, sa famille en Iran, qui sont restés en Iran, le mari et la famille, le reste de la famille sont en Iran. Et donc, ils subissent ces pressions, encore une fois, cette lutte. Voilà. Donc, un film à l'arrivée qui est une parfaite dénonciation de la théocratie totalitaire qui règne en Iran et qui est un hommage rendu à trois sportives. Hein, Sadaf Kadem, première femme boxeuse islamique, iranienne, pardon, réfugiée en France. La grimpeuse Elnaz Rebaki, qui a grimpé sans hijab, elle risquait d'y passer là-bas. Et Kimia Ali Zaed, du taekwondo, qui, elle, a été menacée par le régime, a fui le pays. Elle faisait du taekwondo aux Olympiques de Rio. Et donc, elles sont parties exactement comme Mohamed Rasoulov. Les graines du figuier sauvage.
On rappelle, voilà. Les graines du figuier sauvage, ouais.
Son mari a fui, le mari de la judoka a fui l'Iran exactement comme Rasoulov.
J'ai juste une question. Ouais. Est-ce que ce film, il a été diffusé en Iran ou comment est-ce qu'il a été produit et tout ça?
Et je pense même d'ailleurs qu'elle-même étant comédienne, je sais que les films où elle est apparue, parce qu'il y avait une sombre histoire de... tous ces films ont été censurés,
il est impossible. C'est pas possible, même son mari... À la judokate symbolise l'impossibilité de vivre en Iran après avoir fait ça.
Oui.
Non, surtout que l'action, c'est avant le mouvement Femme, Vie, Liberté.
D'accord.
Donc c'est avant. C'est absolument invraisemblable.
Si on veut avancer un petit peu, Alexis, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce film ?
Moi, ce que je peux dire seulement, c'est que voilà, si on a envie d'aller voir le film, il y a trois thèmes principaux. Hein. Il y a la liberté individuelle, la pression politique et les droits des femmes. Donc, c'est trois thèmes importants dans le film. Et donc, rien que pour ça, je pense qu'il faut aller voir le film parce que ça va au-delà du sport. Ça, c'est une certitude. Et c'est pas le seul pays, hein, bien sûr. On voit ça dans des dérives partout. À noter quand même que la réalisatrice est aussi la réalisatrice des Nuits de Machad, sortie en 2019, non
2022, elle a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes pour ce film.
Voilà, donc rien que ça, je conseille d'aller voir les deux films. Hein.
Les Nuits de Machad, c'est énorme aussi.
Ouais. Mais il n'est pas passé sur Arte il n'y a pas longtemps.
Si.
J'ai pas appelé.
Au cas où. Mais peut-être repassera-t-il dans une salle obscure. Merci. Donc dépêchez-vous d'aller voir Tatami. Il est à l'affiche jusque lundi. au navire Aubena et au Vence. Et peut-être sera-t-il prolongé ou rediffusé encore une nouvelle fois. On va tout de suite passer, on va pas s'encombrer de films dont vous n'avez pas forcément très envie de parler. On va tout de suite passer, Clotilde, aux deux événements là, dont tu veux nous parler. Un cycle de science-fiction qui commence dès vendredi prochain, qui s'appelle En parallèle, alors qui est fait... vas-y, raconte-nous,
je te laisse. Alors, ce cycle de science-fiction qui s'appelle En parallèle, effectivement, il est né d'une volonté des étudiants infirmiers de l'IFSI d'Aubenas de faire un cycle, de faire un petit ciné-club dans leur équipe. Et puis aussi, il y avait parmi eux des fans de science-fiction. Ils sont venus à notre rencontre au navire. On a, entre nous, fait émerger 4 films de science-fiction qui pourraient créer un cycle avec des rendez-vous sur l'année. Rendez-vous pour les cinéphiles et pour les étudiants infirmiers, puisque l'idée était de mêler science-fiction et médecine, bien sûr, puisqu'ils sont intimement liés. Et donc moi, je suis ravie que nous présentions ces films, que ces films soient un peu mis en avant, puisqu'ils seront à chaque fois présentés pour donner des clés de lecture avec justement ce parallèle entre médecine et science-fiction. Et voilà, on est toujours sur des problématiques sociologiques très actuelles pour écrire les films de science-fiction. Et nous commençons par Bienvenue à Gattaca.
Je voulais faire... faire deviner éventuellement les auditeurs avec les premières. On peut juste entendre les premiers sons. Parce que Bienvenue à Gattaca, vas-y, tu peux lancer.
Dans un avenir pas si lointain,
j'adore la
notre ADN déterminera notre vie. Une infime goutte de sang, un peu de salive, un simple cheveu définiront où vous pouvez travailler, qui vous devez épouser, ce que vous serez capable d'accomplir. Dans une société où la réussite est déterminée par la science, divisé par les critères de perfection, la seule chance d'un homme...
Comment espères-tu réussir?
Je ne sais pas exactement.
...est de cacher sa propre identité.
C'est le dernier jour où tu vas être toi et où je vais être moi.
En empruntant celle d'un autre.
Waouh, Bienvenue à Gattaca. On est en 1998 et c'est Andrew Niccol. On a reconnu peut-être la voix française d'Ethan Hawke. Mais ça donne exactement la même chose en version originale. Hein,
on est dans les années 90. Andrew Niccol, qui a scénarisé The Truman Show pour commencer sa carrière dans le cinéma. Donc là, voilà, on est dans une société d'eugénisme, de définition de notre propre vie par l'ADN. Donc si on est un enfant naturel... on n'aura pas beaucoup de chance d'avoir des portes ouvertes. Dis-moi.
Non, mais c'est des questionnements aussi vertigineux parce que c'est sur l'identité. Et finalement, là, on parle effectivement de biologie, de médecine, de génétique, mais c'est aussi une thématique peut-être plus globale de déterminisme.
À travers le génisme, ouais, voilà, c'est une déviance en fait.
Voilà, à travers le génisme. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des thématiques aussi très proches de ce qui se passe avec les réseaux sociaux, qui n'est pas là en termes de génisme, mais de déterminisme algorithmique.
C'est vrai.
Nous éloignons du sujet, nous avons peu de temps.
Mais en tout cas, si on veut continuer par là, réseaux sociaux ou algorithmes, le film qui suit, donc Gattaca, cocktail d'ouverture, vendredi 11 octobre, rendez-vous à 18h30. Les étudiants infirmiers présenteront ce film.
Au cinéma Le Navire.
Au cinéma Le Navire, évidemment. Et puis, le film qui suivra, donc c'est en février, c'est un peu plus loin, mais c'est Her de Spike Jonze. Donc là, on a notre cher Joaquin Phoenix qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle avec la magnifique voix de Scarlett Johansson. Voilà, donc là aussi, c'est un film qui est sorti en 2013. Aujourd'hui, on est carrément en plein dedans. Ce que l'intelligence artificielle peut prendre comme place dans notre vie, voire même à notre place, quoi. Mmh. Je continue en décembre. Donc tu vois, j'ai fait un mauvais ordre chronologique, mais ce n'est pas grave. Ouais. Ça, c'est un très beau film de Harry Folman qui avait fait Valse avec Bachir. Ah. qui s'appelle le Congrès. Et là, on est plus sur l'ordre de comment la société ne veut plus accepter de vieillir, puisque voilà, cette femme jouée par Robin Wright, qui est une actrice qui tombe un peu en désuétude, on lui propose d'acheter son image, en fait, pour qu'elle... Alors, on lui vend ceci comme une façon de, finalement, devenir éternelle et garder sa plus belle image puisqu'elle est en train de vieillir et d'être, voilà, elle est sur le déclin. Et en fait, bon, elle est finalement prise au piège de cet achat par les distributeurs de films de son image. Et en fait, évidemment, ça la dépasse et elle est, en fait, dans des réalités parallèles. Donc ça, c'est assez intéressant. On est aussi sur l'histoire des réseaux sociaux, de tout ce qu'on peut avoir comme imaginaire avec un S, hein, qui nous, parfois, nous font oublier celui dans lequel on est vraiment, et on préfère aller dans d'autres imaginaires. Bon, bref, c'est une très, très belle histoire sur le fait de ne pas accepter la réalité et d'aller se perdre dans le numérique.
Le Congrès, ça, ce sera au mois de décembre. On aura le temps d'en reparler. Puis il y aura un dernier film.
Le dernier film, plus léger, on dirait Downsizing, avec Matt Damon, hein, que tout le monde a certainement vu. Ouais. Mais qui est une satire assez intéressante, hein. On parle de greenwashing et de détournement de greenwashing, ouais. Hein, vraiment, voilà, donc super, on est ravis.
Premier donc cycle SF, mais il y a un autre événement, alors on aura l'occasion d'en reparler sur cette onde, mais vas-y, parle-nous de ce que vous allez proposer avec le festival Parole et Images d'Afrique.
Oui, c'est donc ce festival Images qui débute Paroles là, il débute en octobre, c'est demain la soirée d'ouverture à Privas d'ailleurs, mais au navire, le Mrab d'Aubenas a décidé de programmer 4 films. Alors, la première session, ce sera le 16 octobre, et ça met le cinéma marocain à l'honneur, puisqu'on a un réalisateur marocain. Vous l'avez peut-être vu, un beau film qui se nomme Haut et Fort, de Nabil Ayouch, qui est sorti en 2021, mais qui est vraiment à destination des publics jeunes. Enfin, en tout cas, nous, on a très envie que les ados viennent voir ce film, parce que c'est un film sur... la façon de se positionner quand on grandit par rapport à sa famille, par rapport à sa société, et qui est très très beau. Hein. Nabil Ayouch, il a fait d'autres films, Much Loved, je crois, Razia. Voilà, donc super film. Ça, c'est à 14h30 le mercredi. Et ensuite, on enchaîne avec un documentaire d'une réalisatrice marocaine aussi, La mère de tous les mensonges. C'est un film qui n'a pas été projeté en Ardèche, donc c'est super chouette. Asmaïe El-Moudir, et elle aussi, elle a une façon originale de créer son documentaire, puisqu'il y a à la fois des images réelles et à la fois de la marionnette. Donc on est vraiment du théâtre d'objets, donc pour raconter la guerre du pain qui a eu lieu au Maroc. Alors je ne sais plus en quelle année, mais voilà, c'était une révolte populaire par rapport à la hausse faramineuse du pain, du prix du pain. Par rapport aux classes populaires. Et après, le dimanche qui suit, c'est le cinéma sénégalais qui sera mis à l'honneur. Et là,
On
sera le 20 octobre. Et là, ce sont deux films qui, c'est pareil, n'ont pas été diffusés en Ardèche. Et nous aurons un documentaire fantastique de Mati Diop. Mati Diop avait fait Atlantique, je ne sais pas si vous souvenez de ce film assez fascinant. Donc là, c'est pareil, on a...
Un peu fantastique déjà, un peu.
Ah oui, complètement. Et Dahomey, voilà, raconte l'histoire de la restitution des statuettes au Bénin, donc par la France. Là, c'est quelque chose qui s'est fait en novembre 2021, voilà. Et donc, elle a suivi le retour de ces statuettes au Bénin. Et donc déjà leur trajet, et puis leur arrivée au Bénin, et comment finalement ces statuettes sont accueillies par la population qui, elle, finalement, n'a même pas connu ces statuettes.
Ils apprennent leur histoire, en fait.
Finalement, ils apprennent leur histoire, et il y a voilà, cette interrogation sur comment est-ce qu'on accueille ce passé via ces statuettes.
Cinéma africain, donc sénégalais, puis le 20 octobre, et le 16, cinéma marocain. Oui. Vous pourrez retrouver
voilà,
toutes
je parle
les
juste
infos.
Du dernier. Ouais. En fait, on enchaîne Mati Diop, Dahomey, et ensuite Banel Yadama de Ramatatoula Issi. Et là, on est plus vraiment sur l'ordre du conte africain. Un joli film. Voilà, moi, c'est une narration de conte. Très très beau.
Une narration de conte. Super. Mais on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne. Merci Clotilde. Avant de nous quitter, je rappelle que ce week-end, même à partir de là, tout de suite, à partir de 15h, il y a la 6e édition du Festival Cinéma en Vivarais qui a lieu donc tout ce week-end jusqu'à dimanche soir à Joyeuse et puis à l'église de la Baume demain soir. Il y a un ciné-concert à ne pas rater avec plein de courts-métrages du début, des débuts du cinéma de la Belle Époque de 1895 à 1915, je pense. Mise en musique par Alexandre Benetto qui est compositeur lui-même. Donc ça, ce sera à la Baume demain soir à l'église de la Baume à 20h30. Et puis voilà, le festival de cinéma qui se poursuit. Vous trouverez toutes les infos si vous tapez cinéma en Vivarais. Et puis la Maison de l'Image offrira quelques films là à venir. Emilia Pérez sera à Tueil ce soir. Le Comte de Monte Cristo à Lussas aussi ce soir. Lundi, là c'est pas la Maison de l'Image mais Auteuil, il y a un film surprise, j'adore les annoncer parce que c'est tellement bon, on ne sait pas ce qu'on va voir, on s'installe et c'est de toute façon un chouette film qui a été choisi par les cinémas ARS et les professionnels du cinéma. Donc ça c'est lundi Auteuil et mardi un autre film ou le même, je ne sais pas, un film surprise à Lussas. Voilà.
Mais j'insiste sur Emilia Pérez. C'est vraiment...
Emilia Pérez, ce soir, tu as hier. Ouais. À voir. Merci beaucoup. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Merci à tous les trois, Clotilde, Olivier et Alexis, d'être venus nous parler de cinéma et filer au cinéma, tous. Ciao.
Bon week-end.